plus.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans le monde aujourd'hui. Eric Manila Kidza à la présentation de cette édition du lundi 10 mai 2021. Au Burundi, au moins 12 morts dans une embuscade dans le centre du pays. Le chef de la junte militaire tchadienne est en visite au Niger pour rencontrer ses soldats et le président Mohamed Bazoum. En Guinée, en cette fin du Ramadan, les prières collectives nocturnes sont interdites.
Nous vivons une situation inédite qui affecte notre quotidien et bouleverse aussi bien le cours de nos vies que le cours de l'histoire.
Le président afghan ordonne à son armée de respecter le cessez-le-feu décrété par les talibans. Dans 10 minutes, vous suivrez également l'économie et les sports. Mais d'abord, le journal. Au Burundi, au moins 12 personnes, dont un officier supérieur de l'armée, sont mortes hier soir dans une embuscade contre des véhicules dans le centre du pays. Le point avec Abdourahman Dia.
Dans un message Twitter, le président Evariste Ndayishimiye s'est dit attristé de voir encore une fois le Burundi perdre ses enfants par la faute de bandits. Il ajoute que tous les criminels doivent être mis hors d'état de nuire. Un officier de l'armée burundaise ainsi qu'une de ses filles figure parmi les victimes. Il revenait d'une fête familiale avec son épouse et ses trois filles. L'embuscade a été tendue à 4 kilomètres du centre-ville de Muramvya par une dizaine d'hommes fortement armés qui ont tiré sur la voiture du colonel, puis ils l'ont incendiée. Le colonel et une de ses filles ont été carbonisées dans le véhicule, selon une source administrative. Entre-temps, 3 autres véhicules, dont un bus, sont arrivés sur place et ont également été attaqués avec des fusils et des grenades. Les gens sont sous le choc car c'était une véritable opération militaire, a témoigné un habitant de Muramvya, sous couvert d'anonymat. Ce groupe s'est replié ensuite dans la forêt après avoir pillé tout ce qui pouvait l'être. De telles embuscades sont de plus en plus fréquentes au Burundi.
30 personnes sont mortes et noyées après le chavirage de leur bateau surchargé dans l'état du Niger, dans le centre du Nigeria. Le président Muhammadu Buhari a qualifié l'accident de crève-cœur. Une partie des victimes étaient des déplacés qui ont fui les récentes violences provoquées par des groupes criminels. Des hommes armés ont enlevé lundi 10 fidèles dans une mosquée dans le nord-ouest du Nigeria, près de la frontière avec le Niger. Selon la police, 47 personnes participaient à des prières dans le cadre du Ramadan. Les bandits ont enlevé 40 fidèles, les faisant sortir de la mosquée. Des policiers, aidés par des groupes d'autodéfense et des habitants de la ville, ont réussi à libérer 30 des otages. Les assaillants ont pris la fuite avec 10 fidèles. Le général Mahamat Idriss Déby, chef du conseil militaire de transition au Tchad, s'est entretenu à Niamey avec le président nigérien Mohamed Bazoum. Il doit se rendre dans l'ouest du Niger où sont stationnés 1200 soldats tchadiens. Les précisions de John Lyndon.
Le général Mahamat Idriss Déby, qui dirige la junte au pouvoir depuis la mort de son père, est arrivé en début de matinée à Niamey. Il est venu voir ses troupes à Téra et en a profité pour discuter avec le président du Niger, Mohamed Bazoum, a indiqué une source à la présidence nigérienne, sans préciser le contenu de l'entretien. Nous sommes venus ici pour affirmer notre amitié, pour remercier le président Bazoum pour tous ses soutiens depuis la mort du maréchal. Nous sommes venus aussi pour soutenir nos forces à Téra, a brièvement déclaré Mahamat Idriss Déby. Mohamed Bazoum a été désigné en avril par le G5 Sahel comme facilitateur entre les nouvelles autorités tchadiennes et un groupe rebelle, le Front pour l'alternance et la concorde au Tchad. L'armée tchadienne a affirmé dimanche que l'opération contre ces rebelles était finie et que la situation est revenue à la normale.
Les ministres de la Défense du Burkina Faso, Chérif Sy, et de la Côte d'Ivoire, Téné Biraïma Ouattara, ont indiqué lundi à Ouagadougou vouloir mutualiser leurs efforts dans la lutte anti-djihadiste. Arrivé la veille à Ouagadougou en compagnie de son chef d'état-major des armées, Biraïma Ouattara, frère du président ivoirien Alassane Ouattara, a également rencontré le chef de l'état burkinabé, Héroque Marc-Christian Kaboré. En Côte d'Ivoire, une centaine de personnes ont manifesté lundi à Abidjan contre le retour de l'ex-président ivoirien Laurent Gbagbo. Ces manifestants, dont de nombreuses femmes, ont répondu à l'appel du collectif des victimes de Côte d'Ivoire pendant la crise post-électorale de 2010-2011 qui avait fait quelque 3000 morts. La Côte d'Ivoire va lancer le 26 mai une campagne de sensibilisation pour apprendre à lire et inciter à la lecture. Les deux tiers des Ivoiriens sont analphabètes et la moitié des librairies ont fermé en une dizaine d'années, a annoncé lundi l'ONG qui organise l'opération. La campagne ciblera dans un premier temps les enfants des écoles. Dans l'est de la RDC, un journaliste et animateur d'une radio locale a été assassiné par des inconnus. Barthélémy Kubanabandu Changamuka a été tué par deux hommes armés non identifiés dans la localité de Kichanga, dans la province du Nord Kivu, a annoncé l'ONG congolaise Journaliste en danger. La justice congolaise a demandé la levée de l'immunité parlementaire de l'ancien Premier ministre Augustin Matata Ponyo, mis en cause dans une affaire de détournement de fonds publics, et dit qu'il est prêt à comparaître pour se défendre. Le président Félix Tshisekedi a fait de la lutte contre la corruption une des priorités de son mandat. Son ex-directeur de cabinet, Vital Kamerhe, est en prison après avoir été condamné à 20 ans de prison dans une affaire de détournement de 50 millions de dollars. Des entreprises algériennes ont reçu ordre du président Abdelmadjid Tebboune de rompre leur contrat avec des sociétés étrangères, notamment marocaines, susceptibles de porter atteinte au pays et à sa sécurité. Cette instruction présidentielle est adressée au Premier ministre, aux membres du gouvernement et aux responsables des entreprises du secteur marchand.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Une cyberattaque a mis hors service un important pipeline américain qui dessert 50 millions de consommateurs et transporte 2,5 millions de barils par jour sur plus de 8 800 km. Nanit Talani pour les détails.
Des sources ont déclaré dans la presse américaine que l'attaque du Colonial Pipeline Company a probablement été causée par un gang de criminels appelé Darkside et qui serait basé dans un pays russophone. Les hackers ont infiltré le réseau et ont tenté de prendre en otage près de 100 gigaoctets de données, menaçant de les divulguer sur Internet contre le paiement d'une rançon. Conséquence, les cours du pétrole sont repartis en hausse ce lundi, soutenus par les craintes pour l'approvisionnement après cette cyberattaque. Selon la Société de protection contre les risques numériques Digital Shadows, l'attaque a été facilitée par le coronavirus car plusieurs ingénieurs accèdent à distance au système de contrôle. Le gouvernement américain a déclaré une urgence régionale et a assoupli les règles sur le transport du carburant par la route.
Un homme a ouvert le feu dimanche pendant une fête d'anniversaire dans l'État américain du Colorado, tuant 6 personnes avant de retourner son arme contre lui, a annoncé la police. Les États-Unis ont connu ces dernières semaines une série d'attaques par arme à feu. Plus de 43 000 décès par arme à feu ont été répertoriés dans le pays l'an dernier. En Afghanistan, les talibans puis le gouvernement afghan ont annoncé aujourd'hui un cessez-le-feu de 3 jours pour l'Aïd el-Fitr après une flambée de violence au moment où Washington s'apprête à retirer ses soldats du pays. Claire Morégibourg.
Ce matin, les talibans ont ordonné à leurs combattants de cesser toutes les attaques contre l'ennemi dans tout le pays du premier au troisième jour de l'Aïd. Dans la foulée, le président Ashraf Ghani a ordonné à ses forces armées de respecter le cessez-le-feu annoncé par les insurgés, qu'il a exhorté une nouvelle fois à annoncer une trêve permanente. Le pays connaît une recrudescence des violences depuis le 1er mai, date à laquelle les États-Unis étaient supposés avoir retiré leurs 2500 soldats présents sur le sol afghan. Washington a repoussé cette échéance au 11 septembre, date du 20e anniversaire des attentats de 2001, ce qui a suscité la colère des talibans. Au moins 11 personnes ont encore péri ce lundi à cause de l'explosion d'une bombe au passage d'un bus dans la province de Zaboul. Et samedi, au moins 50 personnes sont mortes après une série d'explosions devant une école pour filles à Kaboul.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voafrique.com. Dans l'actualité économique en Afrique et ailleurs, suivez la Minute Éco signée Nanit Talani.
En République démocratique du Congo, la justice demande la levée de l'immunité parlementaire de l'ex-premier ministre Augustin Matata Ponyo et de la sénatrice Ida Kamadi. Ils sont mis en cause dans le détournement de fonds publics destinés au parc agro-industriel de Bukangalozo dans le Bandundu à 240 km de Kinshasa. L'inspection générale des finances estime que 205 millions de dollars sur 285 millions décaissés par le trésor public ont été détournés. Matata Ponyo dénonce un dossier truffé de contre-vérités. Il se dit prêt à comparaître pour se défendre. L'agence de télécommunications éthiopienne Ethiotelecom lancera un service d'argent mobile cette semaine. Le Télébir fournira des services tels que les transferts d'espèces et les paiements via les téléphones mobiles. Pour terminer, les achats en ligne ont donné un véritable élan au commerce électronique de produits agricoles pendant les confinements, y compris en Afrique, révèle la Banque mondiale. Au Kenya, pour faciliter les achats et les paiements électroniques, la Banque centrale a imposé aux fournisseurs de services d'agents mobiles une exonération de frais pour environ 80% des opérations. Au Rwanda, le gouvernement a recommandé à la population de recourir aux plateformes de commerce en ligne, y compris pour l'achat des produits frais issus des exploitations locales. Au Nigeria, de nouvelles plateformes ont permis de rapprocher les agriculteurs des consommateurs.
Passons directement à votre page d'espoir avec Yakuba Ouedraogo. Bonsoir.
Bonsoir à tous. Le match du Supercoupe d'Afrique opposant les Égyptiens d'Al Ahly aux Marocains de la Renaissance sportive de Berkane aura finalement lieu le 28 mai à Doha. La pandémie de Covid-19 et des désaccords sur le lieu de la rencontre ont obligé à décaler ce match qui oppose chaque année le vainqueur de la Ligue des Champions CAF à celui de la Coupe de la Confédération. Ce sera la troisième finale d'affilée à avoir lieu au Qatar, pays hôte de la prochaine Coupe du Monde, dans le but de donner davantage d'envergure internationale à la Supercoupe selon la CAF. Al Ahly, vainqueur de la Ligue des Champions CAF, a remporté 6 fois la Supercoupe en 8 participations, la dernière en 2014, Renaissance Berkane la dispute de son côté pour la première fois. Les Jeux Olympiques de Tokyo vont se dérouler du 23 juillet au 8 août prochain. Parmi les athlètes qui y prendront part figure la jeune rameur togolaise Claire Aïvon. Celle qui rêve d'une médaille olympique va concourir dans la discipline d'aviron. Claire Aïvon ou l'espoir du Togo pour une deuxième médaille olympique. Un reportage de notre correspondante à Lomé, Kayi Lawson.
Depuis son premier exploit en 2008, grâce à Benjamin Boukpeti qui a décroché une médaille de bronze pour le Togo en canoë-kayak, le pays rêve d'un second sacre. Pour les Jeux d'été de cette année, c'est Claire Aïvon, la jeune rameur de 24 ans qui porte l'espoir de tout le pays et elle en est consciente.
Je promets de travailler et de redoubler d'efforts pour ma performance pour pouvoir rapporter la deuxième médaille pour le Togo.
Le Togo ne veut lésiner sur aucun moyen afin de mettre toutes les chances de son côté. En plus du matériel indispensable pour son entraînement, la jeune athlète bénéficie d'un suivi spécialisé. Loniwa Lemou, attaché de cabinet au ministère des Sports et des Loisirs.
Claire Aïvon a bénéficié également d'un accompagnement médical et d'un appui nutritionnel adéquat pour qu'elle puisse se sentir au mieux de sa forme afin que sa participation à ces JO soit une consécration.
6 jours sur 7, Claire Aïvon s'entraîne sur le lac Togo. Elle va s'envoler dans quelques jours pour la Tunisie pour un stage en vue d'améliorer son chrono. C'est ce qu'espère son coach Kofi Degué.
Ça fait pratiquement un an qu'on a commencé la préparation. On fait un entraînement de haut niveau qui commence de lundi à samedi soir. Pour avoir une médaille olympique, au moins il faut environ dans les 7 heures avec quelques secondes. Mais actuellement, nous sommes déjà à 8 heures, on est tout près de la médaille.
Claire Aïvon n'est pas sa première participation aux Jeux Olympiques. Elle était déjà à Rio en 2016. Kayi Lawson, Lomé, VOA Afrique.
Merci, Kayi.
C'était les sports de Yakuba Ouedraogo.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Et Eric Renalisa, bonjour avec vous pour aborder les dossiers du jour. En Guinée, il est interdit aux musulmans de faire des prières collectives nocturnes, comme c'est le cas habituellement pendant les dernières nuits du Ramadan. Les autorités entendent ainsi éviter la propagation du Covid-19, mais cette décision a provoqué dans le pays des manifestations violentes. Une personne a été tuée. On fait le point avec notre correspondant à Conakry, Zakaria Kamara.
L'interdiction des prières collectives nocturnes était inscrite cette semaine à Conakry à l'ordre du jour du Conseil des ministres. Le gouvernement guinéen justifie la mesure. Thibou Kamara, ministre d'État, porte-parole du gouvernement.
Nous regrettons que pendant les manifestations ou pour des revendications, qu'il y ait toujours des violences, qu'il y ait toujours des actes de vandalisme. Et malheureusement, parfois, nous enregistrons des victimes. Le chef de l'État demande à ce que l'ensemble des populations comprennent que nous vivons une situation inédite qui affecte notre quotidien et bouleverse aussi bien le cours de nos vies que le cours de l'histoire. Il rappelait ce matin en conseil que dans des discussions justement liées un peu à tous ces événements qu'il a eues avec un certain nombre de guides religieux, il a attiré leur attention sur le caractère exceptionnel de la vie que chacun de nous subit du fait de cette pandémie.
Les musulmans pratiquants ont manifesté dans plusieurs villes contre l'interdiction des prières collectives pendant les 10 derniers jours du Ramadan. À Kerouané, à l'est du pays, un jeune a perdu la vie après avoir reçu une balle dans la nuit du mercredi à jeudi. À Conakry, ils sont nombreux à ne pas comprendre cette mesure interdisant les prières collectives nocturnes.
Au marché, sans se décider sous, on ne comprend pas. Donc il y a assez de frottement. Pourquoi on n'a pas interdit ces rencontres-là dans les différents marchés, alors qu'on interdit les rencontres dans les mosquées pendant les prières? Je trouve incohérent une telle mesure.
Moi, j'aurais préféré qu'on dise, bon, écoutez, face à la pandémie aujourd'hui, on interdit toutes les prières à la mosquée. Là, je peux être d'accord, mais je ne peux pas accepter qu'on autorise certaines prières à la mosquée et qu'on interdise la prière nocturne. C'est absurde, c'est insensé, c'est incompréhensible.
Même s'il y a eu des protestations dans la capitale et quelques villes du pays, certains Guinéens semblent être en phase avec cette décision du secrétariat général des affaires religieuses.
L'État est dans son rôle là. On ne peut pas être plus fort que l'État, parce que être plus fort que l'État, c'est se contredire soi-même, quoi. Parce que quand on dit l'État, c'est vous et moi et nous tous. Donc c'est un peu ça. Donc moi je me dis que cette responsabilité, c'est à l'État d'empocher, d'endosser. Et s'il y a un péché, c'est à l'État de prendre.
Et en tant que fidèle musulman et croyant, et une fois que vous avez les ordres d'un supérieur, d'un hiérarchie, il faut se soumettre. C'est comme si c'est le premier responsable de la famille. Une fois que le premier responsable de la famille donne l'ordre, qu'est-ce que la maman ou les enfants ont à faire? C'est d'obéir.
Au total, la Guinée a enregistré 22 602 cas confirmés au Covid-19, dont plus de 20 000 guéris et 150 décès. Autre chiffre, plus de 57 000 personnes ont reçu leur dose de vaccin. Conakry, Zakaria Kamara pour VOA Afrique.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
La Côte d'Ivoire connaît depuis quelques jours de longues coupures d'électricité. Ces perturbations brusques et inattendues bouleversent la vie des consommateurs. Toutes les grandes villes du pays, en particulier la capitale économique Abidjan, métropole d'environ 5 millions d'habitants, sont très affectées. Notre correspondant sur place a tendu son micro à certains Ivoiriens.
Moi, je me dis qu'il est vraiment important que la Côte d'Ivoire pense d'abord à s'autosuffire en énergie avant de chercher à alimenter les pays limitrophes. La Côte d'Ivoire s'est développée depuis ces 10 dernières années. Et qui parle de développement parle forcément d'alimentation en énergie. Donc, il est important de s'autosuffire d'abord avant de penser à revendre. C'est mon avis.
Comme on dit, tu peux pas avoir faim chez toi et puis nourrir quelqu'un qui est dehors. Voilà. On doit régler, nous, notre souci ici. Permettre à tous les Ivoiriens de pouvoir avoir l'électricité d'abord avant de penser à exporter l'électricité au fait. Voilà. Et puis je pense que l'État gagnerait mieux à trouver d'autres sources d'énergie. Parce que c'est un peu démodé de toujours compter sur de l'eau, tout ça, sachant qu'avec le réchauffement climatique et autres, l'eau se fait de plus en plus rare sur la Terre. On a le soleil en abondance, on a le vent, on a tout ça qu'on peut exploiter. Et puis aussi que l'État pense réellement à libéraliser le secteur de l'eau et de l'électricité. On en a marre du monopole de la CIE, de la SODECI.
Le fait que la Côte d'Ivoire exporte de l'énergie vers ses pays voisins, c'est un autre indice, hein, que la Côte d'Ivoire est une plaque incontournable dans le développement économique des pays de la sous-région. Donc, je pense qu'en tant qu'Ivoirien, on peut en être fier. Et puis, bien entendu, user d'un peu de patience, hein, le temps que tout ça soit réglé. Vous comprendrez que aujourd'hui, la couverture en termes d'électricité sur le territoire national s'est accrue. On parle de près de 79% de couverture. Hein. C'est vrai, c'est un peu pénible pour les citoyens lambda, mais en même temps, c'est le prix à payer sur le chemin de l'émergence.
La coupure d'électricité engendre de nombreux problèmes. On demande pardon à l'État de résoudre ce souci-là. Est-ce que c'est vraiment compliqué?
C'est désolant et puis à la fois c'est pitoyable. On s'auto-suffit pas en électricité et on vend de l'électricité. Et qui peut occasionner tout cela? On oublie que la Côte d'Ivoire est en train de grandir. La démographie fait que ça grandit. Au fur et à mesure que les gens construisent des maisons, il faut de la lumière dans les ménages. Mais quand on vend de l'électricité, ça ne peut pas suffire. Donc c'est la faute même des dirigeants du pays.
Abidjan, Côte d'Ivoire, 99 FM, c'est bien sûr VOA Afrique, 24h sur 24.
Les descendants d'esclaves sont de plus en plus nombreux à réclamer des réparations pour l'esclavage dont ont été victimes leurs ancêtres pendant la traite négrière. Les États qui ont profité de l'esclavage ne semblent pas enthousiastes à l'idée. Nanit Talani a joint Imanié Dalila Daniel, qui a écrit sur l'esclavage et milite pour le dédommagement.
Il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas en entendre parler parce qu'ils pensent que ce serait une manière de marchander le sang de nos ancêtres. Et puis, il y en a d'autres qui ne veulent pas en entendre parler parce que ça voudrait dire qu'il va falloir qu'ils payent. Donc, c'est bien comme ça, il faut tourner la page, il faut oublier. Cependant, nous sommes un groupe de personnes mobilisées. Il y a un procès actuellement en cours contre l'État français qui ira bientôt à la Cour des droits de l'homme.
Pourquoi est-il important que les États acceptent de donner des dommages aux descendants d'esclaves?
La réparation, ce n'est pas seulement de l'argent, hein. La réparation, c'est premièrement la réparation des esprits. Il faut premièrement réparer les esprits. C'est-à-dire que tous ces enfants, ces hommes et ces femmes, qui pensent qu'ils sont trop noirs et qu'il faut qu'ils se blanchissent la peau, tous ceux qui pensent que plus on est noir, moins on a de la valeur, tous ceux qui pensent que parce qu'ils sont noirs, ils n'ont pas de valeur, tous ceux qui sont en adoration devant les gens qui sont plus clairs qu'eux ou qui ont une texture de cheveux plus lisse que la leur, ces gens-là ont besoin d'être soignés et il faut mettre en place une armée de psychologues, de psychiatres, de psychanalystes pour réparer les esprits des gens. Et ces gens-là, il faut les payer. La réparation, c'est le droit au retour. Si j'estime que pour ma réparation, je ne veux plus vivre dans le système qui a mis mes ancêtres en esclavage, mais que je veux aller récupérer mon héritage culturel, mon patrimoine artistique, culturel en Afrique, je veux que l'on me donne les moyens de partir en Afrique avec toutes mes affaires. La réparation, de pouvoir être formé, de pouvoir être éduqué, de pouvoir élaborer des projets, monter des entreprises. Il faudra financer cette affaire-là. Et puis la réparation, c'est aussi nous permettre de nous reconnecter avec l'Afrique.
Est-ce que les textes existent qui permettent de faire de telles revendications?
Eh bien, c'est ça le problème. C'est-à-dire qu'il y a une loi, on va fêter les 20 ans de cette loi le 21 mai, qui s'appelle la loi Taubira, qui a décrété l'esclavage crime contre l'humanité. Et le problème, c'est que cette loi n'a pas prévu de réparation. Et c'est sur cela que s'appuient ceux qui disent « Oui, crime contre l'humanité, mais sans réparation, parce que la réparation n'est pas prévue dans la loi. »
Imanié Dalila, artiste et écrivaine en Martinique.
Abdourahmane Dia avec vous. Dans Washington Forum cette semaine, la loi Taubira sur l'esclavage a 20 ans. Elle est la première législation à reconnaître l'esclavage comme un crime contre l'humanité. Plus de 170 ans après son abolition, les réparations morales et financières font toujours débat. Et son héritage reste lourd aujourd'hui, selon les activistes, avec la discrimination et le racisme. Pendant ce temps, en Afrique, la pratique de l'esclavage persiste dans certains pays, malgré son interdiction dans les textes en vigueur. Nous discuterons de tout cela avec nos invités ce jeudi à 19h temps universel sur VOA Afrique et VOA Afrique.
Le président américain Joe Biden rencontre les législateurs cette semaine pour trouver un terrain d'entente sur ses plans de reprise économique qui comprennent des dépenses touchant les infrastructures, la garde d'enfants et l'éducation. Les pourparlers interviennent alors que les États-Unis ont connu une reprise plus faible que prévue au niveau de l'emploi. Les précisions de Michel Quinn avec le récit de Jacques Aristide.
Les derniers chiffres de l'emploi aux États-Unis indiquent que l'économie a encore un long chemin à parcourir pour se remettre de la pandémie de coronavirus. Le président Biden tente d'obtenir l'aval des élus cette semaine au sujet des dépenses de plus de 4 000 milliards de dollars dans deux domaines, les infrastructures et les familles. D'après le département américain du travail, le taux de chômage est passé à 6,1% en avril, en légère hausse par rapport à 6%. Les employeurs américains ont ajouté 266 000 emplois en avril, selon les autorités, bien moins que le million attendu par les analystes. Biden a défendu les efforts de son administration et le vaste programme de relance économique qui a été adopté en mars dernier sans le soutien républicain.
Il a été conçu pour nous aider pendant un an, pas 60 jours, mais un an. Nous n'avons jamais pensé qu'après les 50 ou 60 premiers jours, tout irait bien.
Quant à savoir pourquoi la reprise de l'emploi aux États-Unis a été lente, il y a des accords. Certains experts l'attribuent aux obstacles auxquels sont confrontées les personnes qui retournent au travail, comme un accès limité aux services de garde d'enfants, alors que les écoles ne sont pas totalement rouvertes. Cela a particulièrement touché les femmes. Certains républicains soutiennent que l'augmentation des indemnités de chômage est trop généreuse et dissuade les gens de retourner au travail. Le sénateur Pat Toomey est un républicain de Pennsylvanie.
Le fait de payer des allocations de chômage plus que ce qu'une personne qui travaille touche ne crée pas un environnement particulièrement propice au retour au travail.
Mais pour certains groupes progressistes, le problème est que les salaires sont trop bas pour de nombreux emplois. Yvette Simpson, directrice générale de Democracy for America, lors d'un entretien dans l'émission This Week de la chaîne ABC.
Les salaires sont si bas en ce moment. Nous devons parler du fait que les gens retourneront au travail si vous avez un salaire de la classe ouvrière, si vous avez un salaire décent pour les gens.
La secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, a déclaré la semaine dernière qu'elle pensait que les États-Unis atteindraient le plein emploi l'année prochaine et que les chiffres montrent que nous n'avons pas encore fini, dit-elle. Le président Biden est d'avis que la faible croissance de l'emploi rend plus urgente l'adoption de ces plans de dépenses sur les infrastructures et les familles, comme l'élargissement du crédit d'impôt pour enfants. Les deux programmes requièrent des augmentations d'impôts pour les riches et les grandes entreprises, ce à quoi de nombreux républicains s'opposent.
C'est la fin de cette édition. Merci de votre fidélité à VOA Afrique. Un grand merci à toute l'équipe de la rédaction et de la production qui a permis la réalisation de cette édition. Lionel Kalima, Michel Pierre-Joseph, Georges Léonard Sagnot et Josèle Morissin. Eric Mandakis a été à la présentation, mais c'est pas le monde aujourd'hui. Pour plus d'informations, 24 heures sur 24, restez branchés sur voafrique.com sans oublier nos pages Facebook, YouTube, Twitter. et Instagram, bien sûr. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. À la prochaine.